Bonsoir à tous. Nous sommes sur la 9e édition des rencontres nationales de l'expertise immobilière. Et j'ai la chance, j'ai l'honneur d'animer cette table ronde sur l'intelligence artificielle et l'expertise immobilière. Alors l'intelligence artificielle, c'est un élément de crispation, de cristallisation des crispations, mais c'est aussi un élément d'opportunité sur lequel on va pouvoir aujourd'hui débattre avec des intervenants experts d'univers variés, d'univers de l'expertise immobilière, bien évidemment, des domaines, mais aussi des ingénieurs qui évoluent dans quelques start-up. Ce qui n'était pendant plus de 50 ans qu'un mirage, une folle illusion, est en passe de fomenter une nouvelle révolution dans tous les pans de notre société. L'intelligence artificielle qui laisse tout le loisir à une machine d'imiter l'intelligence humaine à coup d'algorithmes est en train, alimenté par la data, de bouleverser une multitude de pans de notre société, dont le monde immobilier, de quoi cristalliser des peurs et faire naître, c'est incontestable, des opportunités. Aujourd'hui, nous sommes en plein fantasme au point d'imaginer que l'expertise immobilière qui va être renvoyée au calende grec, qu'à la faveur de quelques algorithmes alimentés par la data, l'expert immobilier va être tout bonnement mis sur la touche. Alors j'ai devant moi, vous avez devant vous cinq intervenants, donc à votre gauche, Adrien Boulet, qui est ingénieur issu des arts et métiers. Il est âgé de 32 ans, c'est un gamer fondu d'informatique. Il s'est très tôt reconverti pour devenir développeur dans différentes startups avant de débarquer chez Myri, une startup qui propose une solution de gestion de l'immobilier pour développer la performance, optimiser la gestion et accélérer les transactions des actifs immobiliers professionnels. À ce jour, il est responsable de l'équipe technique de Myri, un service de 15 développeurs. Nous avons ensuite, à sa gauche, Alain Comel, qui est à la tête de la Direction nationale d'intervention domaniale et notamment le pilotage et l'animation de la mission d'évaluation immobilière dans le secteur public. À la tête de 1000 agents sur l'ensemble du territoire national, il est en train de déployer l'intelligence artificielle dans les interventions domaniales, considérant que les outils de l'IA sont un enjeu de productivité. Chaque année, l'administration spécialisée réalise 90 000 évaluations pour une valeur supérieure à 50 milliards d'euros. C'est bien cela ? Catherine Dargent. Elle a fait toute sa carrière dans l'immobilier avec des expériences transversales, expert dans le notariat, asset manager chez Gecina. Elle a créé en 2009 Daxter, une société de conseil stratégique spécialisée dans l'expertise amiable et judiciaire, mais aussi dans l'accompagnement stratégique des professionnels de l'immobilier. Aujourd'hui, l'ancienne présidente de RIX France, ancienne présidente du collectif d'application de la charte immobilière, reste très investie dans la profession, son avenir, et travaille notamment sur l'intégration des normes environnementales dans l'expertise immobilière. Nous avons ensuite David Roucheret, qui est responsable grand compte chez Pricehubble, une start-up leader européen sur les solutions d'estimation et d'analyse immobilière pour les professionnels, qui revendique 25 000 utilisateurs à ce jour. À seulement 34 ans, celui qui voue une véritable passion pour la tech a travaillé dans les télécoms, puis chez Hello Bank, avant des passages chez Arval BNP Paribas et la Legal Tech, Quai des Notaires. Enfin, M. Bertrand Carteron, qui est expert immobilier depuis 2008 au Grand Bornand, Haute-Savoie. À 38 ans, il est peut-être l'expert en évaluation immobilière le plus haut perché de France. Il est depuis 2021 le président de la Compagnie nationale des experts immobiliers, qui pourrait prochainement fusionner avec la Chambre des experts immobiliers de France. Dans cette mission, il essaie de sensibiliser ses confrères à l'utilisation efficiente des nouvelles technologies et met son énergie au service de la profession pour que celle-ci puisse être, espère-t-il, force de proposition et que soit créé un cadre légal pour toute la profession. Alors aujourd'hui, sur cette table ronde, on retrouve donc M. Adrien Boulet, ingénieur responsable technique chez Maëry. Pouvez-vous, pour démarrer, pour donner un petit peu la tonalité de ce qu'est l'intelligence artificielle, qu'ont apporté justement les ingénieurs dans ce sens, donner un petit peu une définition de l'intelligence artificielle pour qu'on puisse circonscrire déjà le sujet?
Alors, je vais essayer. Déjà, je pense qu'on peut commencer par dire ce que ce n'est pas. Surtout, vu ce qu'on entend un peu partout, ce n'est pas une intelligence. Malheureusement, c'est dans le nom. On en discutait tout à l'heure. Peut-être que ça vient de l'anglais, où justement, intelligence, ça n'a pas forcément la même définition qu'en français. Donc, ce n'est pas une intelligence. C'est une machine, clairement, qui va tenter d'imiter l'intelligence humaine. Mais à ce jour, en tout cas, dans ce qu'on a pu voir dans la littérature ou les démonstrations des grands de la tech, s'il existe un outil qui permet de remplacer l'intelligence humaine, il a pas été, on ne nous l'a pas montré. S'il existe, quelqu'un le cache précieusement. Donc, je pense que vous avez tous entendu parler de ChatGPT, la GPT, la source de tous les articles de presse quasiment sur l'intelligence artificielle depuis quelques mois, voire même quelques années maintenant, ben en fait, ça ne fait que imiter. C'est un modèle statistique, si on veut faire très simple, qui va prédire quel est le mot le plus probable à une suite de caractères en fonction d'un corpus de données qu'on lui a donné en entrée. Mais il ne fait que ça. Il ne peut pas apprendre une langue si on ne lui donne pas une quantité astronomique de données dans cette langue. Donc, c'est pour ça qu'il se trompe souvent. Moi, il n'y a pas plus tard que, je pense que c'était le mois dernier, je lui ai demandé si, je m'amuse parfois, si 2019 était une année bisextile, il m'a dit que oui, parce qu'en fait, c'est probable de répondre ça. Il y a une probabilité de répondre ça. Il ne va pas aller chercher les calculs, etc., pour dire non, c'était pas bisextile. Donc, c'est pas une intelligence, pas aujourd'hui. Et il n'imite l'intelligence humaine que par du coup la qualité de la donnée qu'on lui donne. Si on lui donne de la donnée fausse ou biaisée, je pense que c'est le mot qui est important ici, il va répondre de manière biaisée. Si on l'entraîne à être raciste, c'est déjà arrivé dans certains. Alors, c'était pas fait exprès. Il va devenir raciste. Et d'ailleurs, on a déjà tous vu, je pense, sur Twitter, des intelligences artificielles. Qui répondait automatiquement aux tweets des gens sur Internet. Et puis, évidemment, les gens se sont amusés à essayer de lui dire des choses infâmes, et c'est ce qu'il a dit en quelques heures. Donc, il a été, on l'a coupé. Donc, voilà, ce n'est qu'une imitation, alors, on va tous le dire clairement, extrêmement, comment dire, on y croit, excellent, j'ai plus le mot, crédible. mais ce n'est que ça, qu'une imitation.
Et justement, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on parle de données. Et monsieur Roucheret, la donnée, c'est vraiment quelque chose qui est structurant dans l'activité de Priceable. Vous pouvez nous donner un petit peu les éléments constitutifs de ce que sont des données fiables, des données vérifiées, des données intelligentes, des données qui sont réactualisées.
Oui, bien sûr, avec plaisir. Bonjour à tous. Donc, nous, ce qu'on fait chez Priceable, justement, c'est qu'on va capter en fait de la donnée de marché qui est diffusée, qui est disponible pour le tout un chacun, donc ou qui a été disponible à un moment donné pour le tout un chacun. Donc, on va venir capter de la donnée d'annonce, on va venir capter de la donnée de transaction, on va venir capter des informations issues de sites gouvernementaux, de l'INSEE, des permis de construire, et de cette donnée, ensuite, bah, on va la traduire, on va la lire, on va la nettoyer. Et ça, c'est le travail de nos ingénieurs, c'est le cleanage de la donnée, donc le nettoyage de cette donnée. Et ensuite, on va la mettre en forme, de façon à ce qu'on puisse, mais en quelque sorte, filtrer les meilleures informations pour pouvoir, de ce jus de meilleures informations, ensuite ressortir un algorithme qui puisse tenir la route avec les meilleures informations.
Et vous, M. Carteron, qui êtes un technophile et expert immobilier, qui avait déjà, a priori, déjà créé vos propres algorithmes, comment vous servez de la donnée et comment vous exploitez dans votre quotidien la donnée avec vos algorithmes.
De la même manière que mon voisin, c'est-à-dire qu'on prend la donnée qui est brute, qui est publique, ou, on va dire, semi-publique, je pense à Perval, pour ne pas le nommer, Basse-Bien en Ile-de-France pour les notaires, d'Ile-de-France, on prend la data et on va devoir l'injecter dans, vulgairement, un tableur Excel pour qu'elle soit traitée. Je sors d'une formation brillante sur les châteaux, et en effet, la question était comment est-ce qu'on intègre la donnée. Ben, la donnée, on va la chercher. Et typiquement, aujourd'hui, on ne peut pas se passer de l'informatique. Par exemple, aujourd'hui, le Perval exporte toujours ses données en format PDF. Ben, pour gagner du temps, pour éviter de passer une matinée à mettre un PDF en Excel, ben, j'ai envie de vous dire un script Python, une reconnaissance de texte, des mots-clés, et puis l'affaire est faite en quelques secondes. On rajoute par ça une librairie Python qui vous permet de géolocaliser, de géocoder les termes de comparaison, qui va vous permettre de rajouter les informations d'urbanisme. Ben, en fait, en 5 minutes, vous passez d'une data brute à une data enrichie, et c'est là-dessus que bosse l'expert, une data enrichie. D'ailleurs, le métier d'expert, c'est savoir constater des faits, collecter de la donnée, enrichir la donnée pour la restituer. Voilà. Donc, on peut le faire par plein de moyens artisanaux, papier, crayon, de l'informatique, de l'IA. Et là où l'IA est un vecteur de productivité, de plus-value, c'est qu'elle nous permet d'automatiser des tâches qui avant auraient pris énormément de temps, voire ça a permis de baisser le coût de cette automatisation.
Et vous, Madame Nargent, comment vous appréhendez justement l'avènement de l'IA dans votre profession et dans votre quotidien ?
En réalité, l'IA n'est pas si nouvelle que ça, hein, ça fait longtemps. Ça a fait très peur à nos métiers de conseil en général, d'experts immobiliers, pendant longtemps, parce qu'on a eu l'impression qu'on allait être remplacé quelque part. Y a une confusion aussi entre algorithmes et intelligence artificielle. C'est-à-dire que les algorithmes se servent de données, les travaillent et font un modèle, les restituent. C'est le modèle de Price-Hubble, par exemple. Voilà. Après, l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus large que ça, et c'est en fait une boîte à outils dont on peut servir, comme a dit M. Carteron d'ailleurs, à différents moments de notre travail, et qui c'est un super assistant en fait qui permet de gérer les choses différemment et plus efficacement. Donc il y a une grande confusion en fait là-dedans, je pense. On a cru qu'on allait être remplacé. Bon, déjà, c'est pas une intelligence. Donc, de toute façon, il y a besoin de l'intelligence humaine. Mais surtout, c'est quelque chose qu'il faut le voir comme quelque chose qui peut apporter, contre lequel on ne peut rien déjà, et qui peut apporter énormément.
Et vous, justement, qui travaillez notamment sur les normes environnementales, est-ce qu'aujourd'hui, sur l'IA, on peut exercer des modèles sur ce sujet-là ?
Alors, ce n'est pas encore tout à fait mûr, puisqu'on est déjà à se mettre d'accord entre les organisations sur le nombre de critères et la nature des critères à prendre en compte dans l'évaluation. On n'en est même pas encore à la façon dont on va les prendre en compte dans l'évaluation. Voilà. Et on l'a pris dans ce sens-là pour justement qu'il y ait une réflexion humaine amont. Voilà. Une fois que les choses seront digérées, entre guillemets, et qu'on aura exploré des pistes d'intégration de ces critères dans les évaluations, bien sûr qu'on aura besoin d'outils pour nous aider à les gérer, ne serait-ce que parce qu'il y a des dimensions techniques importantes dans ces critères-là qu'aujourd'hui, on appréhende mal en tant qu'expert en évaluation immobilière.
Alain Comeil, vous êtes directeur donc, national des interventions domaniales. Qu'est-ce que l'IA est en train de bouleverser dans l'estimation domaniale ? L'État va-t-il pouvoir estimer sa richesse immobilière plus finement, plus rapidement ?
Je ne m'attendais pas à cette question, pour vous dire. Moi, c'est plutôt les raisons qui nous ont conduit à adopter l'intelligence artificielle. La première des raisons, c'est qu'on croit dans le potentiel de l'IA. On croit effectivement qu'on est en face d'une révolution technologique qui va permettre, en matière d'évaluation immobilière, d'apporter beaucoup. Et ça correspond d'ailleurs à l'ADN de la DGFiP de se tourner vers l'ensemble des solutions techniques aujourd'hui qui permettent d'améliorer les process de travail. Je parlais de la DGFiP parce que je dépends de la Direction générale des finances publiques. Je rappelle que les données dont on sert beaucoup dans l'IA et tous les intervenants, c'est DVF, données de valeur foncière. Donc, et l'IA, c'est le croisement entre l'open data, dont DVF, et le machine learning. C'est ça, l'intelligence artificielle. Donc on a, à la DGFiP, ouvert les données des transactions immobilières. Il nous semblait totalement naturel à la NID d'utiliser ces données dont on dispose par ailleurs et qui sont disposées avant d'autres, de les utiliser dans le cadre de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est le premier objectif, être toujours à la pointe de la modernité dans nos travaux. Deuxième objectif, plus qualitatif, c'est toujours notre préoccupation, c'est d'apporter la meilleure qualité de notre travail à nos consultants. Les consultants du domaine, c'est les services de l'État, c'est les établissements publics, c'est les collectivités locales. Donc l'IA, pour nous, c'est aussi un moyen d'améliorer la qualité de notre travail. Et troisième objectif, vous le mentionnez, c'est des gains de productivité. Pour nous, l'IA, aujourd'hui, ça va nous permettre de faire toute une série d'évaluations simples et de la faire avec une certaine fiabilité. Dès lors qu'on est sur de la transaction sur des biens comme des maisons, des appartements, dans des marchés fonciers actifs, l'IA nous apporte de la donnée totalement fiable. Voilà ce que je pouvais dire, c'est pour moi, et pour répondre à l'intitulé de cette table ronde qui est « Fantasme ou opportunité », je pense qu'il faut être bien conscient qu'on est face à une révolution et qu'on n'est qu'au début de cette révolution et que l'IA a un potentiel énorme, mais qui n'évacuera pas, et ça je rejoins totalement ce qui a été dit tout à l'heure, l'homme. L'homme restera toujours présent dans l'IA. Moi, je souhaite que l'IA puisse prendre la place la plus importante, mais l'homme sera toujours nécessaire. Pour en revenir à notre sujet qui est l'immobilier, aujourd'hui, l'IA ne peut pas anticiper un retournement de marché. Le retournement de marché, c'est l'homme qui va, dans la data, incrémenter de la donnée, qui va permettre à l'algorithme de comprendre qu'il faut effectivement, dans la prédiction de valeur, il faut intégrer un changement de paramètre. Et ça, encore une fois, ça démontre que l'homme restera toujours un acteur important au dans titre de l'IA.
Monsieur Carteron, vous avez fait la preuve du concept avec votre algorithme en termes de productivité. Vous pouvez dire un petit peu les bouleversements qui sont arrivés dans votre structure, dans une structure à taille humaine.
Replacer l'humain au cœur de l'évaluation, en tant qu'évaluateur, notre métier, c'est d'apporter une plus-value. Donc il faut pouvoir se dégager du temps pour réfléchir. Voilà. Lire un PLU, lire un bail, même si c'est nécessaire, il y a des moyens d'accélérer le parcours de ces documents. Premier d'entre eux, on peut utiliser un système qui vous permet de sortir les mots-clés qu'il y a dans un bail, de sortir les mots-clés qu'il y a dans un règlement de PLU, et ça va tout de suite vous marquer les marqueurs. Est-ce que c'est un bail pro-bailleur, pro-preneur ? Est-ce qu'on est sur un PLU qui est restrictif ou qui est plutôt léger ? Et en fait, on gagne du temps de compréhension, de parcours, avec des astuces. Hein, simplement, on va dire, sur un PDF, une IA ou sur un fichier texte, tu me mets en caractère 12 les critères qui sont importants, type emprise au sol, prospect, hauteur, les limites qu'il peut y avoir. Donc, en fait, ça fait gagner du temps. Et c'est là où je rejoins sur les gains de productivité. L'idée, ce n'est pas de remplacer. Par définition, on est des êtres humains qui sommes, par définition, irrationnels. Nous n'avons quasiment aucun comportement rationnel dans les actes qui gouvernent notre vie. Alors, on peut réfléchir, après coup, on va avoir des biais de confirmation, ce qu'on appelle les fameux biais cognitifs. On va dire, ah ben oui, j'ai fait ça parce que, bon, ok, d'accord, plein de bonnes raisons. Mais le plus important, c'est d'utiliser l'informatique pour ce qu'elle est, comme étant un outil. Il y en a plein d'autres. Et les premiers outils qu'on a en tant qu'évaluateur, n'oubliez pas, hein, c'est les chaussures. C'est se dépasser sur site. Et ça, là, on est évaluateur quand on se dépasse sur site. Et comme ça prend du temps, eh ben, il nous faut gagner du temps au bureau pour pouvoir justement parcourir la quantité de données qui est de plus en plus importante. Qu'on aime ou pas l'IA, la multiplication de la donnée fait qu'on en a besoin pour qu'elle soit correctement traitée. Et aujourd'hui, il faut qu'on aille à l'essentiel. Perdre du temps sur des données qui n'ont aucune importance, on est tous soumis à la loi de Pareto des 80-20, bon, bah, force de constat, on utilise les outils. Aujourd'hui, l'IA est un outil parmi tant d'autres. Mais la première chose, c'est d'utiliser ça correctement. Et j'ai envie de dire, il faut s'y intéresser et savoir comment ça fonctionne. Et grande nouvelle, vous pouvez vous tous développer votre propre modèle d'IA. Et les tutoriaux sont en ligne. Les modèles sont gratuits. Une connexion Internet, un ordinateur, et j'ai envie de dire, vous pouvez tester. Hein. J'ai testé pendant la formation que j'ai juste avant là, sur les châteaux. Comment doit-on évaluer un château avec un modèle d'IA qui vient de sortir? La réponse, celle qu'on connaît tous, et la fin, c'est quand même très compliqué et chronophage, rapprochez-vous d'un expert. Voilà. Donc, la conclusion, elle est là. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à être à l'auteur de nos prétentions et l'utiliser correctement, cette machine.
Et la substitution de l'IA, vous avez un exemple flagrant avec votre algorithme. Si vous faites appel, vous avez recours aujourd'hui à des prestataires extérieurs.
L'avantage de s'intéresser à ce domaine d'activité, c'est que j'ai rencontré des géomaticiens, des développeurs, des UX designers, enfin plein de gens qui font d'autres métiers que le nôtre, comme mon collègue à droite. Hein, et c'est très intéressant de travailler avec eux parce qu'ils ont une vision nouvelle, ils ont une vision externe aux problématiques qu'on a. Clairement, la charte de l'expertise en évaluation immobilière, on ne connaît pas. Néanmoins, c'est toujours intéressant, c'est enrichissant de confronter les données, de confronter les points de vue, et ça apporte énormément en termes de criticité sur la donnée qu'on doit traiter. N'oubliez pas, techniquement, on crée tous de la donnée, mais le seul défaut, c'est qu'on ne s'est pas encore mis d'accord pour savoir comment la diffuser correctement. Mais à la base, la DVF, c'est la clé d'entrée. La DVF, elle est incomplète si on ne rajoute pas par-dessus les normes d'urbanisme, les caractéristiques des bâtis, etc., etc., etc. Donc, à nous aussi de savoir utiliser la DVF, l'IA, pour aussi devenir des producteurs de données. C'est aussi ça, le champ des possibles.
Et Madame Darjon, quel est votre sentiment, justement, sur cette utilisation des données?
Ouais, de toute façon, une machine qui marche toute seule, elle dit n'importe quoi. Ça a été dit, voilà. Deuxième corollaire, l'expert immobilier, c'est quelqu'un normalement justement qui a l'expérience et qui pourra, moi je ne laisserai pas un bail être, ok, on peut avoir les mots-clés, etc., mais il y a quand même besoin de vérifier s'il n'y a pas eu une interprétation qui a été mal faite, si tout va bien et si on peut se fier à ce qu'a dit la machine. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est en ça qu'on n'est pas très remplaçable. Après, dans le brassage des données et dans les algorithmes qui peuvent être faits, que je disais tout à l'heure que ça, ce sont deux choses différentes, on a aussi des choses à aller chercher pour certaines typologies de besoins. Y compris sur nos métiers ou d'études de marché ou de que sais-je, voilà. Alors après, quand on est fort comme Bertrand Carteron, on fait soi-même. Moi, je sais rien faire, donc je m'appuie sur des spécialistes. Mais aujourd'hui, en effet, on peut tout imaginer. Pourvu qu'on reste en contrôle, voilà. Et a fortiori sur tout ce qui est algorithme, mais pas que. Toutes ces briques d'IA ont besoin de contrôle et ont besoin de nous. Maintenant, nous, on a besoin de données. Je parlais tout à l'heure des données techniques dont on va avoir besoin pour les normes environnementales. Aujourd'hui, on patauge, c'est effrayant. Dans les coûts de construction, les coûts de rénovation, les machins, j'en passe, c'est des meilleurs. La situation est encore compliquée aujourd'hui par ces nouvelles normes à l'aide. Voilà. Bien sûr qu'on va en avoir besoin. On va surtout manquer de temps pour mettre tout ça en place. Et c'est là que les organisations professionnelles sont importantes aussi, parce qu'on peut gagner en diffusion, en fait, de méthodologie et de savoir. J'ai envie de dire, c'est aussi ce qui va nous aider à évoluer dans notre métier tout en le préservant.
Et à votre niveau, ces données, est-ce qu'elles sont toutes accessibles facilement?
Bah, non.
Il y a une question de coût, il y a une question d'accessibilité de la donnée.
Non, elle n'est pas très accessible. Et en plus, pendant des années, on a cru se protéger en rendant le marché opaque. C'est un peu ça. Je dis nous, pas que les experts, hein, les marchés en général, mais c'est particulièrement vrai en France. Donc on est mal positionné sur tout, sur les loyers, c'est un enfer, sur les valeurs. Alors DVF, c'est très bien, ça ouvre beaucoup de portes, mais il manque encore des choses importantes, comme l'étage, comme des données qui existent, hein, et on ne comprend pas d'ailleurs pourquoi on n'y a pas accès, mais bon, c'est comme ça. Bon, tout ça se construit petit à petit, mais ça va très vite. Ça va très très vite.
Monsieur Rougeron, est-ce à dire qu'il y a des niveaux de données inaccessibles qui font que on va avoir des niveaux d'estimation en fonction des biens, en fonction des sujets qui peuvent être très hétérogènes?
Oui, tout à fait, ce que j'allais dire. En fait, la donnée, elle est accessible, mais de façon hétérogène sur le territoire. Nous, on parle en connaissance de cause, parce qu'on est présent dans 10 pays, et forcément, bah, les pays n'ont pas les mêmes règles, les mêmes législations en vigueur, les mêmes droits d'accès à la donnée. Donc forcément, on doit composer avec cette hétérogénéité de données. Ce qu'on fait, par contre, c'est qu'on cherche à avoir accès à un maximum de données dans la plus grande quantité et qualité possible. Donc c'est pour ça que nous, on va rechercher diverses sources, aussi bien dans les annonces que dans les transactions sur DVF, qui sont en fin de compte des données qui sont complémentaires. Parce que sur DVF, Madame D'Argent le disait, on a de la donnée, certes, on connaît le prix de transaction, l'adresse, la date à laquelle la transaction était réalisée, mais par exemple, on ne va pas connaître le DPE, on ne va pas connaître l'étage, on ne va pas avoir une idée de l'état du bien, on ne va pas avoir de photos. Donc ça va être, en fin de compte, une donnée qui est très pauvre, si on devait l'exploiter, juste cette donnée. Donc on va beaucoup la compléter avec de la donnée d'annonce qui va permettre d'avoir d'autres métriques, les durées, par exemple, de diffusion des annonces et autres, qui vont permettre de connaître en fait la tension qu'il peut y avoir sur un marché, si par exemple en fonction des typologies il y a un rallongement justement des durées de publication qui font que on voit un petit peu les effets de bord de l'accès au crédit, de l'accès au logement qui se font ressentir sur divers endroits en France. Et là où la mesure aussi est spéciale, c'est qu'on est dans un marché aussi qui va à plusieurs vitesses. Donc cette donnée étant hétérogène, évidemment qu'il y a des données auxquels on n'a pas accès. Et nous, Priceable, on ne veut pas fonctionner comme une boîte noire. Donc, on n'a accès qu'à de la donnée qui est publique ou qui a été publique à un moment donné. Donc, on n'ira pas chercher de la donnée sombre, je vais dire.
Et monsieur Comeil, est-ce que vous avez justement des problématiques d'accès à la donnée?
Oui, on partage les mêmes problèmes que tous ceux qui utilisent l'intelligence artificielle dans le milieu immobilier. Maintenant, ça a été dit et j'y reviens. On est vraiment dans un environnement où la donnée se multiplie. Donc, il faut la capter et il faut savoir l'exploiter. Donc, nous, on travaille avec une start-up. C'est pas une solution qui a été développée par l'administration. On a un partenariat avec cette start-up. Elle nous met à disposition sa plateforme. Nous, on l'aide à fiabiliser ses algorithmes. On lui fait des retours sur notre ressenti par rapport à la qualité de cette donnée. Mais ce qu'on observe, c'est un périmètre d'utilisation de données qui ne cesse de croître. On était à l'origine sur de la donnée de transactions immobilières. On a intégré progressivement des services de proximité qui ont un impact sur la valeur d'un bien. On travaille maintenant sur des données sur la performance énergétique, quand on peut récupérer les DPE. On peut avoir des informations de toute nature et qui nous aident à fiabiliser. Donc on progresse dans le périmètre de ces données, et ce qui contribue à fiabiliser les évaluations que nous propose la plateforme.
Cet afflux de données, ce recours à une start-up pour aller plus loin dans l'intelligence artificielle, est-ce que ça peut crisper vos agents? Est-ce que ça peut bouleverser l'organisation des domaines?
Alors, il n'y a pas de, de sentiment général par rapport au changement. Vous avez le changement qui est accepté, le changement qui est redouté. Là, l'intelligence artificielle, oui, rien que la traduction de l'anglais, intelligence artificielle, on a l'impression que voilà, c'est le substitut à l'homme. Bon, je pense qu'il faut sortir des fantasmes, il faut en venir à des réalités. Donc, je ne reviens pas sur ce que je disais tout à l'heure. On a besoin de l'homme et on aura toujours besoin de l'homme. Maintenant, il y a des évaluations simples sur lesquelles la contribution de l'homme me semble non pas menacée, mais elle sera de moins en moins importante. En revanche, c'est ce qui était dit tout à l'heure, c'est le recentrage de l'ensemble de nos équipes sur de l'évaluation complexe. Encore une fois, il y a eu des interventions aujourd'hui d'agents du domaine qui ont fait des formations sur les stades, sur l'évaluation de châteaux. Évaluer le Stade de France avec l'intelligence artificielle, je ne pense pas que ce soit encore d'actualité. Et ça m'étonnerait que ça le soit un jour. Donc, face à un réseau qui peut avoir des craintes, et encore une fois, c'est pas général. Nous, notre démarche a consisté à être d'abord dans l'expérimentation. On a expérimenté. Si ça marche, on continue. Si ça ne marche pas, on arrête. Et ça a marché. Et on était sur un périmètre de biens et tout était centralisé à la NID. Ce n'était pas le réseau des évaluateurs. C'était pour les biens des successions vacantes, des biens immobiliers des successions vacantes pour lesquels on devait définir un prix de réserve. Le prix étant, c'était une valeur de réserve et le prix, c'était une adjudication. Donc, on n'était pas obligé d'être dans la fiabilité à 10 ou 20% près. Donc, on a testé, le résultat était probant. Et ensuite, voilà, après avoir expérimenté, progressivement, on essaie d'utiliser l'intelligence artificielle sur des types de biens adaptés à cet outil. Encore une fois, c'est un outil et il faut qu'il soit utile. Il y a des domaines dans lesquels il donne de bons résultats, il y en a d'autres où aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas le cas. Donc nous, on a en méthode principale l'intelligence artificielle pour des évaluations quand des comptables publics ont besoin de constituer des garanties sur un bien immobilier, il leur faut une valeur. Il n'y a aucune difficulté. On est aussi dans le cadre de procédures judiciaires. On peut être saisi pour donner une valeur. Il n'y a aucune difficulté. Pour les biens de succession vacante, on n'a pas de difficulté. En revanche, sur tous les autres types d'évaluation, quand on recourt à l'intelligence artificielle, c'est du recoupement. C'est du recoupement. Et troisième chose, quand on est en face d'une révolution comme celle-ci, il faut de l'expérimentation, il faut de la progressivité, mais il faut aussi de l'accompagnement. Donc, on documente tout ce que l'on fait, on a des formations et on fait en permanence de la pédagogie et on rappelle, hein, on tue le fantasme, on aura toujours besoin de vous. Hein, on n'est pas là pour concevoir un outil pour gagner en productivité et supprimer de l'emploi. Notre objectif, c'est faire moins de quantitatifs, ça a été cité tout à l'heure, hein, 90 000 évaluations, c'est, je le rappelle, pour les services du domaine, et il y a quelques évaluateurs dans cette salle, ils le savent, c'est une évaluation par jour ouvrée. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, il faut qu'on ait des outils qui nous aident à gérer rapidement des évaluations simples et se recentrer sur le complexe.
Madame Dargent, donc les outils de l'IA vont-ils peut-être conduire, orienter vers une segmentation donc, du marché des experts immobiliers où on aurait entre guillemets, les biens exceptionnels qui seraient difficiles à estimer, les plus complexes, qui resteraient dans le champ des experts immobiliers et entre guillemets le tout venant qui pourrait passer
Alors, il y a plusieurs, j'imagine plusieurs sujets dans ce que vous dites. Le tout venant, je ne sais pas s'il y a du tout venant, mais on va dire qu'il y a peut-être des sujets que l'on traite aujourd'hui en évaluation sur lesquels il n'y a pas forcément besoin d'être très précis, il n'y a pas forcément besoin d'experts, il y a juste besoin d'une idée. Voilà. Je pense, et je crois que Priceable connaît bien le sujet, à l'inventaire, par exemple, du parc des bailleurs sociaux, par exemple, pour évaluer, en gros, ce qu'ils avaient comme, comme immeuble, chose qui n'avait jamais été faite parce que c'est un coût démentiel et un délai démentiel de passer par des experts, passer par un algorithme et une organisation de automatique, c'est parfait. Voilà. Ou pour des biens qui vont être mis, en effet, aux enchères. Pourquoi pas ? Il y a plein de sujets qu'aujourd'hui, on traite et peut-être qu'il n'y a pas besoin de nous. Voilà. En revanche...
Vous avez une idée du ratio que ça pourrait représenter ?
Non, aucune. Je vais vous dire pourquoi. Parce que sur la partie qu'on traite et sur laquelle il y a besoin de nous, c'est une partie qui est également en bouleversement et sur laquelle notre métier va changer. On a une dimension technique, par exemple, qu'on n'a pas aujourd'hui et qu'on va devoir avoir. Il y a beaucoup de dimensions qu'on ne traite pas aujourd'hui parce que justement, on n'a pas les moyens de les traiter. On n'a ni la donnée, ni les outils pour le faire. On va maintenant pouvoir s'occuper beaucoup mieux et faire beaucoup mieux notre métier. La deuxième chose, ou peut-être la troisième, que je veux dire, c'est le mot responsabilité. Quand on fait appel à nous, on fait appel à un professionnel qui est responsable de la valeur qu'il donne. Et de la façon dont il a produit. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, peu importe que ce soit fait par un algorithme ou par... peu importe, on est responsable. On a une responsabilité de moyens aujourd'hui. On en parle beaucoup. On pense que cette responsabilité va évoluer, notamment sous le coup des normes environnementales, mais pas que. Nos voisins britanniques, par exemple, ont une obligation, eux, de résultat. Alors, les expertises coûtent beaucoup plus cher, mais parce qu'il y a des assurances qui vont avec, ils sont responsables pour la valeur des immeubles qu'ils évaluent, ce qui n'est pas du tout la même chose que chez nous. Voilà. Et donc, quelle que soit la façon de produire cette valeur, et même si c'est par un outil, on en reste responsable. Donc ça ne changera pas. Et je veux dire, c'est notre... c'est notre métier, en fait c'est notre trésor à nous, voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est que notre métier va évoluer, ce qui n'est pas plus mal, parce qu'on n'est pas obligé de passer 3 semaines par dossier à recalculer toutes les références et aller les revisiter pour voir si la surface utile pondérée est bonne et machin et truc. Franchement, c'est pas, enfin, voilà, ça ne devrait pas être le sujet aujourd'hui, donc demain ça ne le sera plus. Le sujet va se déplacer vers plus de fiabilité, plus de technicité, plus de professionnalisme, et on en sera responsable, comme aujourd'hui. Donc, on apportera notre cachet, en fait, en tant que responsable.
Monsieur Roucheron, vous estimez le gain de productivité, vous, votre cible, c'est les notaires, et ces éléments-là où on balaie les tâches répétitives, où on balaie les tâches rébarbatives, est-ce que vous avez le sentiment que les notaires qui sont votre cible chez Price Hubble, enfin sur votre segmentation à vous, les notaires accueillent bien ce...
Bien sûr, oui, tout à fait. Et pas seulement sur les verticales notaires, on couvre aussi un scope qui est vraiment très large dans aujourd'hui la transaction immobilière. On va couvrir aussi les besoins, comme le rappelait Madame D'Argent, les besoins des bailleurs sociaux dans l'évaluation de parc en très grande quantité, ou tout simplement, humainement parlant, valoriser un parc de 25 000 lots en un mois, c'est pas possible, humainement parlant. Quand on a 2 personnes au patrimoine, ça va être compliqué. Sur aussi les métiers du développement de la promotion immobilière, sur l'asset management, sur la finance, la maîtrise du risque, sur le notariat, évidemment. Aujourd'hui, les professions qu'on couvre se heurtent en fin de compte à des charges administratives qui vont composer, on va dire, 80% de leur travail. Et aujourd'hui, au final, la réflexion, l'intellect, le savoir, la connaissance sont exploités que, et c'est ce que M. Carter en disait, c'est un peu la loi de Pareto, que dans les 20% en fin de compte de son temps de travail. Donc nous, on va aider dans les 80% à réaliser un travail d'abattage où on va permettre d'avoir une visualisation claire, synthétique du marché de l'immobilier à un instant T, mais aussi dans le passé. Donc on va faire gagner un temps très précieux à l'expert, un temps qu'il va pouvoir allouer à autre chose. Là, j'étais encore avec un notaire avant-hier qui me disait, bah, c'est simple, moi, pour sortir... Alors, lui, il n'était pas certifié RefTegoa, donc il sortait un avis de valeur, mais il se déplaçait quand même sur place pour faire l'estimation du bien. C'était un notaire négociateur. Et il me disait, bah, voilà, je me déplace sur place, et puis ensuite, je dois retourner à l'étude, et puis je dois rentrer mes informations, et puis ensuite, je dois ouvrir DVF, puis je dois regarder aussi la base Perval, puis ainsi de suite. Donc au final, il finit avec 15 onglets d'ouvert sur son ordinateur, plus son logiciel métier, plus les informations administratives, plus les obligations légales de remplir la fiche bien, et ainsi de suite. Donc tout ça, au final, le notaire, il ne s'en sort plus, parce que lui, ce que son client veut, c'est un prix, au final, c'est avoir une estimation. Et sur cette estimation, on va lui permettre d'avoir un premier regard sur le marché. En fin de compte, avec Priceable dans la poche, le notaire, petit lapsus, le notaire va finir en fait en tant que notaire augmenté en quelque sorte, et il va pouvoir sortir son téléphone et faire son évaluation directement en ligne.
Ça ouvre donc un champ des possibles. Et Monsieur Boulet, vous m'aviez parlé de l'immeuble de la Défense où il y avait une multitude de data qui permettait aujourd'hui de gérer plus efficacement et de manière plus complète.
Oui, alors là, ça va sortir un peu de mon domaine de compétences, mais oui, effectivement, parce que chez Maïri, on ne travaille pas sur l'efficacité des actifs sur lesquels on peut travailler, enfin, qu'on gère via la plateforme. Mais oui, clairement, la multiplicité de la donnée. D'ailleurs, je connais plus le nom de la startup, mais il y a une startup qui s'occupe que de ça. C'est de venir mettre tout un tas d'outils, d'arriver à savoir la consommation et tout agréger pour ensuite dire de manière très efficace, je ne sais rien, le nombre de pannes de l'ascenseur par mois et ensuite retirer des indicateurs. Donc il y a un nouveau métier qui est justement d'aller chercher cette donnée et de développer les outils qui vont permettre déjà d'aller la chercher, de l'agréger, et ensuite de la rendre disponible. Et bon, alors sur un appartement individuel, ça ne va pas avoir d'intérêt, clairement. Enfin, en tout cas, pas d'un point de vue global, mais sur une tour à la Défense, je vais dire des bêtises, je ne connais pas bien le sujet, mais une cinquantaine d'étages, le maximum. Clairement, ça va être un sujet, oui.
Et Monsieur Comeil, au niveau des domaines, est-ce qu'il y a des biens estimés qui n'étaient pas estimables avant ?
Des biens estimés qui n'étaient pas estimables avant. Le problème des services des domaines, si vous voulez, c'est d'être confronté à des évaluations d'objets immobiliers très différents. On fait des appartements, des maisons. Je le disais tout à l'heure, on fait des stades, on fait des arènes, on fait des prisons, Tout est évaluable. Après, c'est les méthodes d'évaluation. Mais encore une fois, pour des biens standards, et je parle de l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît aujourd'hui. Dans 30 ans, quand on aura des lacs de données qui vont permettre de croiser à peu près tout, on pourra peut-être évaluer des objets un peu plus complexes. Mais aujourd'hui, sur des biens qui sont un peu hors normes, on a besoin de nos évaluateurs. C'est qu'on a besoin de leur expertise. Et ça, avant qu'une machine, si intelligente soit-elle, évalue ce type de bien, je pense qu'il se passera beaucoup, beaucoup de temps.
Malgré les briques technologiques qui vont arriver ?
Alors, ce n'est pas mon métier, mais je pense, oui, clairement. Ce genre de on peut parler de niche. L'intelligence artificielle, elle va avoir du mal parce qu'elle a besoin de données, et par définition, sur de la niche, il y en a beaucoup moins. Donc, elle va pouvoir donner une idée, peut-être, avec une marge d'erreur gigantesque. Peut-être que ça peut aider à donner une première estimation et ensuite travailler de celle-là, mais c'est dangereux parce que du coup, ça fait un biais d'ancrage. Donc, à mon avis, il vaut mieux la garder pour les choses qui sont faciles. Enfin, faciles. Je ne dis pas que c'est facile d'évaluer un bien, qui sont, disons, plus industrialisables.
Monsieur Carteron, le sourcing de données, ça reste donc une problématique récurrente. Et comment vous percevez l'avenir sur cet élément moteur de l'IA, sur cet élément moteur de l'avenir de l'estimation immobilière ?
L'IA a une vertu, c'est que, comme le disait Schumpeter, elle va agir telle une vague perpétuelle de destruction créatrice. elle va nous forcer à nous recentrer, à nous redéfinir sur les valeurs ajoutées qu'on avait historiquement, mais qu'on a pu perdre. On l'a dit, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir 15 onglets différents ? Bon, moi, personnellement, j'ai des API. Donc, comme ça, au moins, je n'ai pas 15 onglets. Est-ce que ça sert d'avoir 15 API quand on pourrait tout mettre sur un seul serveur ? Voilà le genre d'optimisation qu'on pourrait avoir. Mais l'idée, en effet, il n'y a pas d'estimation facile. Mais est-ce qu'il y a des biens qui n'ont pas besoin d'experts en évaluation immobilière ? Il y a un appartement T3 dans un centre-ville lambda. Qui, parmi nous, prend un plaisir à le faire ? Personne. Absolument personne. Par contre, un stade, un super palace 5 étoiles, une propriété pied dans l'eau, le calcul d'une redevance annuelle de l'emprise au sol d'un barrage hydroélectrique. Voilà, ça, c'est des problématiques où, en effet, la bécane, elle ne sait pas faire parce qu'elle n'est pas faite pour ça. Tout simplement, on ne va pas demander à une machine... Si. C'est exactement pour ça que, comme un perroquet, j'ai cité Alois Schumpeter, la vague perpétuelle de destruction créatrice. Voilà. Non, plus simplement, c'est aussi, ça va nous permettre de nous renforcer sur les tâches de valeur ajoutée et revoir les honoraires en conséquence. Si on doit traiter tous les termes de comparaison les uns après les autres pour savoir s'ils sont pertinents ou non, ça va prendre du temps. Aujourd'hui, le problème, il est là, c'est qu'on lutte, contre tous les biais cognitifs. Et il y en a de manière indéfinie. Donc, c'est là où je reviens sur ce que je disais. L'IA nous force à également réinventer notre métier, la manière de le faire. Est-ce qu'on peut être des perroquets ? Non. Est-ce qu'on est capable d'anticiper ? Bah, si on sait le faire, on ne serait pas là. La personne qui peut anticiper est millionnaire, voire milliardaire. Donc je ne pense pas qu'elle serait parmi nous, à moins qu'on ait une surprise. Bah. Donc, ah. Là, c'est plus que la
poche. Non, mais là, c'est une question de base, en fait. Nous, on travaille à partir du marché. Par définition, le marché, ce sont les actions qui sont passées. Ce sont des acquisitions qui ont été faites, des locations qui ont été faites, etc. Voilà. Donc, on n'est pas sur le même métier. Maintenant, demain, moi qui suis économiste de formation, il y a 30 ans, en un an, j'ai réussi à faire un malheureux truc avec 5 variables pour modéliser le commerce extérieur belge. Bon, aujourd'hui, ça doit se faire en 13 minutes, à mon avis. C'est bon, voilà. Mais en matière économique, parce qu'aujourd'hui, on est dans un marasme pas possible, on ne sait pas où vont les prix, comment le marché va atterrir, rien ne nous empêche aussi de travailler avec des données économiques. C'est pour ça que je disais que notre métier il va se transformer, mais complètement. C'est-à-dire, rien ne nous empêche de travailler avec des données économiques pour essayer de comprendre ce que va devenir le marché et d'émettre des hypothèses avec des indices de fiabilité, je dis n'importe quoi, hein, et de dire, voilà, dans telle hypothèse d'évolution économique, l'immeuble, dans un an, il vaudra tant, dans telle hypothèse, il vaudra tant, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille sur la valeur à l'instant T. Demain, on travaillera, bon, en réalité, moi, je travaille déjà sur la prospective, mais au boulier, avec l'Excel, en faisant des cash flows et en faisant tout, voilà. Mais demain, on peut imaginer tout un tas de services d'études, de prévisions, d'accompagnement stratégique, justement, qui aujourd'hui sont extrêmement inefficients, enfin qui n'existent pas de manière efficiente.
Mais vous serez quand même sur des scénarios, sur des hypothèses, pas sur
oui.
Et sur un effet un peu comme l'a dit Monsieur Perroquet, dans le sens où il faudra vous reconstituerez un élément de marché.
On aura de la réflexion, mais il a pas tort. Aujourd'hui, on est très approximatif et très grossier dans notre façon d'apporter les choses. En même temps, on apporte l'intuition humaine. Et ça, c'est précieux. On dit toujours, les anciens experts, parce qu'il y a 30 ans, c'était Monsieur Machin a dit que tel bien, ça valait tant. Point. Il n'y avait pas de référence, il n'y avait pas de démonstration, il n'y avait rien. Et bien, le pire, c'est qu'ils se trompaient rarement. Mais parce qu'ils avaient cette connaissance et cet instinct du marché. Et ça, il ne faut pas le perdre. Justement, la grave erreur, ce serait de le perdre. Vous mettez quelqu'un qui n'a pas l'expérience du marché, qui n'a pas l'expérience de l'immeuble, qui n'a pas usé ses chaussures ou ses talons, je suis toujours mal outillée, à monter sur les terrasses, etc. Eh ben, il ne donnera pas un bon conseil, forcément.
Oui, il y a l'instinct, le ressenti, le terrain qui reste déterminant.
Ça ne sera pas remplacé par une machine tout de suite.
Et c'est là tout l'intérêt qu'il y a. Être sur terrain, ça prend du temps. Recueillir les informations, ça prend du temps. Aller voir un agent immobilier qui, sur son secteur, est celui qui fait le plus de ventes sur un type d'actif, il faut déjà qu'il soit dispo. C'est oui, passe tel jour, telle heure, et après, discuter. Vous allez discuter 5 minutes de boulot. Aujourd'hui, il va vous dire, c'est compliqué. Et puis après, il va falloir gratter pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, un déjeuner pour savoir pourquoi c'est compliqué. Si on reste sur des stats, moi pareil, je passe ma vie dans des stats, sur mon secteur, l'immobilier continue de grimper. Et j'ai un volume qui s'effondre. Donc prix qui monte, volume qui s'effondre, instinctivement j'ai envie de dire que ce n'est pas une recette qui donne envie d'aller de l'avant. Et j'ai besoin d'aller voir les agents immobiliers sur ce secteur pour dire concrètement qui achète, comment ils achètent, comment ils se financent, est-ce qu'il y a du refinancement, qu'est-ce qu'ils cherchent réellement. Et ça va me permettre de peut-être, avec le recul, l'analyse et puis la neutralité, parce que moi clairement que le bien il vaille 1,5 million ou 1,2 million, je m'en fous, je ne vais pas payer là-dessus. Donc la vraie question c'est que je vais prendre toutes ces informations pour après dire dans un secteur qu'on va qualifier de mouvant, où est-ce que je mets ce curseur, sachant que pour rappel, à une valeur, qu'elle soit locative ou vénale, c'est un point d'équilibre, à un instant T. Donc, sitôt que l'instant est passé, par définition, ça bouge. Donc, on est là uniquement pour donner un point d'équilibre à un instant T. Après, il y a des conjonctures dans lesquelles ça stagne, d'autres, ça progresse, ça régresse. Après, à nous de nous adapter. Mais la bonne nouvelle, c'est que plus on a un marché qui est trouble, plus on a besoin d'utiliser nos sens. Par contre, nos sens, c'est du temps, c'est de l'argent. Les clients ne sont pas forcément prêts à mettre des fortunes pour des expertises. Donc, il faut qu'on ait des gains de productivité que nous offre l'IA. C'est QFD.
Mais l'IA ne vous offrira pas plus de fiabilité sur l'estimation, si je comprends le...
Elle va réduire, c'est un autre sujet, mais ça va permettre de réduire, si on a une approche statistique de régression, qu'elle soit linéaire, multifactorielle, etc., là oui, ça va commencer à être sympathique, on va réduire les... disons qu'on n'aura plus le raisonnement qu'on a pu voir dans les rapports d'expertise, les prix vont de 2-3 000 à 9 000 euros du mètre carré, je fais la moyenne, on va les peser. Voilà, là c'est sûr que ça sera un peu plus fin. Mais est-ce que faire ça, c'est être expert, j'ai un doute. Donc si l'IA va nous permettre de réduire des variables, mais il restera toujours la nécessité d'à un moment donné... Une évaluation, c'est les IVS qui l'ont rendu cet avis en mars dernier, une évaluation, c'est un jugement. À un moment donné, il faut qu'on tombe et qu'on dise, ça vaut tant. Donc, il y a besoin d'utiliser la technologie, les sens, les données. Et les données, c'est un vrai problème. Déjà, qu'est-ce qu'une donnée? Est-ce que toutes les données se valent? Il y a de la donnée brute, c'est comme le pétrole brut. Essayez de faire cramer une allumette sur une goutte de pétrole brut, vous allez pouvoir attendre très longtemps. Déjà, essayez sur du gazoil, vous verrez, ça ne marche pas. Sur l'essence, beaucoup plus. Sur l'essence à octane, 100, 120, alors là, elle est au niveau parce que ça va péter. En fait, il y a plusieurs types de données. Il y a la donnée brute qui ne vaut rien, il y a la donnée qui a été qualifiée, et là, il y a la donnée qu'on a su adapter par rapport à un contexte donné. Donc, même une donnée qualifiée, il faut qu'on la replace dans un contexte donné. Quand on nous demande des évaluations, je ne sais pas, sur une donation qui date de 95, alors à l'époque, il y avait déjà du Perval, donc on peut rechoper des transactions sur Perval en 95, et sur Passby aussi, je pense. Mais il faut remettre dans le contexte. C'était quoi le marché immobilier en 95? Est-ce qu'on va traiter le marché immobilier 95 comme celui d'aujourd'hui? À l'époque, on sentait dans un cycle où il y avait une baisse des prix de l'immobilier, un truc qu'on n'a pas connu depuis très longtemps. Donc forcément, il y a toujours ce moment, il faut qu'on prenne du temps, puis se dire, attends, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je traite, comment je le traite, et ça sert à quoi, à quelle fin je dois traiter. Et c'est là où les technologies qu'on a sont utiles. N'oubliez pas, hein, les données du cadastre sont en open data aujourd'hui. Le cadastre français, c'est plus de 10 téra de données. Donc déjà, votre ordinateur ne peut pas le stocker, sauf si vous avez un super ordinateur. Et si vous avez un gros serveur, quand vous avez commencé à lui dire « mets-le sur une carte », ça va couiner. Donc c'est là où il va vous falloir des algorithmes avec du tuilage et tout ce qui va avec pour vous dire « allez, on y va petit à petit ». L'IA nous fait gagner du temps parce qu'elle nous met à disposition des technologies, elle nous prémâche, elle nous prépare, elle anticipe un peu de la donnée. Après, sur l'anticipation, je suis d'accord. Ce n'est pas toujours fiable. C'est artificiel. Donc il y a un moment, il faut revenir à l'essence même du métier. C'est pourquoi on le fait, à quoi ça sert. Et en effet, ce bouleversement technologique, pour moi, est le bienvenu. Il rabat les quatre. À nous d'être à la hauteur de nos prétentions. Donc ils sont là, ils sont là. On a l'État qui est là, on a tout le monde qui est là autour de la table. Allons-y. Redéfinissons le métier et apportons un message vertueux auprès de nos clients, nos donneurs d'ordre, plutôt que d'être des simples perroquets de marché. Peut-être que le perroquet a vécu. Je ne sais pas quel est l'animal qui va le remplacer, mais à nous de le remplacer. Dont acte.
C'est une crainte ?
C'est une opportunité. Tout. Je suis optimiste.
Il faut de l'optimisme.
Bien sûr.
Et donc il y a des fenêtres d'opportunité.
Elles sont énormes. Énormes. Et on aura à s'enrichir de ces opportunités. C'est exceptionnel. Est-ce que moi j'ai 38 ans, est-ce que vous pensez que j'ai encore envie pendant les 15 prochaines années de faire le même métier que les 15 précédentes ? Bon, la réponse est non. Il n'y a pas d'intérêt. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question à quoi je vais servir, comment je vais mettre en perspective, comment je vais pouvoir accompagner mes clients, comment je vais pouvoir assurer mes donneurs d'ordre, comment je vais pouvoir... Enfin, voilà. Tout, et encore une fois, c'est comment l'être humain, au milieu de tout ça, va interagir. Qu'on le veuille ou non, la donnée, elle est là. L'IA, elle est là. Donc, on peut freiner des cas de fer, mettre des monopoles. Ça marche. Enfin, ça tiendra un temps. Et après, on est dans un contexte européen, international. Il y a plein de choses qui se passent. Donc aujourd'hui, on a une situation au Moyen-Orient qui est assez catastrophique. Quels sont les impacts qui vont avoir lieu sur l'immobilier ? Mais j'en sais rien. Donc je devrais m'adapter. Et pour ça, l'IA fait partie des outils dont on a à la disposition aujourd'hui qui nous permettent de se dire, bon, déjà pour ça, j'ai gagné un peu de temps. Je vais en consacrer un peu plus sur le pourquoi du comment. Et là, c'est un vecteur, non pas de productivité, mais c'est un vecteur où on replace l'élément clé au milieu de l'évaluation. C'est pourquoi l'humain va acheter un bien ou louer un bien immobilier à tel prix ou à tel loyer. Voilà. Et est-ce qu'il fait une affaire ou pas ? Est-ce que c'est le bon prix ou le mauvais prix ?
Donc avoir une vision aussi plus prédictive, en fait.
On aura, à un moment donné, de toute façon, dans un contexte incertain, il y a un pari. Donc quand on fait une évaluation, d'ailleurs, c'est le grand dame de notre métier, c'est quand on doit rendre une évaluation, il y a un moment, on est derrière l'écran, puis on fait « Bon, je vais appeler un copain. » Voilà. Salut, comment ça va ? Ça va ? Bon, tu vois le truc à tel endroit ? Ouais, bon, j'ai mis tant, t'en penses quoi ? Ouais, c'est cohérent, ouais. Ah, t'as fait un truc il n'y a pas longtemps, d'accord. Et puis voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait depuis tout à l'heure ? On replace l'humain au cœur de l'évaluation. C'est là tout l'intérêt de ce qui se passe.
Donc c'est un métier de pari perpétuel ?
On ne fait que des paris. Bah, de toute façon, les trois quarts des personnes ici, une énorme partie, on est des indépendants, on est patrons. Donc vous parliez qu'il y a des parieurs. Quel sera mon marché en 2024 ? J'en sais rien, et pourtant j'adore très bien. Je fais le pari que ça marche. Voilà, donc on parie, on tente, et puis qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça va bien se passer.
C'est-à-dire quand vous sécurisez les clients qui me disent « Je m'en fous, au client des 3 000 euros que je vais vous donner, je vais vendre un bien qui vaut 300 000 euros. Qu'est-ce que je m'en fous? Ce que je veux, c'est faire ma stratégie de vente. C'est moi qui l'a fait, c'est pas vous. Vous me donnez une valeur vénale, et derrière, moi, je vais déterminer si je vais en vendre plus 5%. Ces jours-ci, c'est pas forcément une idée. Mais si je vais en vendre plus cher, je sais que je vais attendre. Si je veux vendre rapidement, parce que j'ai trois successions à payer pour financer les rendez-vous aux services fiscaux, je vais mettre en vente, mais la stratégie m'a parfait. J'ai apporté là une véritable chose. J'ai pas donné un chiffre, j'ai apporté une plus-value et une réflexion. Je parle pas de prospective parce que je serai comme Catherine, un gargant de la RICS. Oui, on peut intégrer la perspective et la prospective, mais dans notre cerveau. Puisque l'évaluation en ligne, elle est effectivement un moment.
D'autres questions ou des façons d'amender?
Je vais parler au nom de la CEIF, la Chambre des Services de France, pour une maturité de 4 ans de développement sur un produit interne qui s'appelle DVI, qui est parti bien sûr à la base DVF. Nous avons à l'actuel 30 couches, plus de 30 couches. Nous sommes jusqu'à la CoPro, nous sommes jusqu'au DPE. Donc, je rejoins ce qu'il y a 30 cartons, puisqu'on gère 30 couches et plus encore chaque jour avec des données de plusieurs terrains. Nos serveurs travaillent la nuit maintenant pour faire des sélections sur ces 30 couches. Et nous arriverons sous peu, nous avons validé au niveau de la Chambre des Services de France des budgets supplémentaires pour aller sur l'IA, car c'est un outil qui va nous faire gagner du temps pour traiter cette foultitude de données qu'on va croiser. Déjà, pour l'IA, c'est exactement ça. À la fin, nos honoraires pourront être pertinents par rapport à une base de données qui sera triée. DVF est la première, on va rajouter la CoPro, on va rajouter le DPE, on va tout rajouter à ce jour. On a ce recul. Oui, l'IA, c'est un fantasme, c'est un outil dont on va avoir besoin pour les mois prochains.
Vous voulez répondre?
La réponse est clairement oui. Depuis 20 ans, on va dire, la profession s'est beaucoup organisée, un peu plus que ça, s'est beaucoup organisée, a remonté beaucoup justement le niveau de formation d'origine. Ce sont des métiers, je dis des métiers parce que Jean-Yves a raison, la prospective pour l'instant ce n'est pas dans le métier de l'expert. Et là, moi j'ai la vision de l'élargissement du métier de l'expert à justement l'accompagnement stratégique. C'est pour ça que je parlais de prospective. Mais on a besoin de compétences juridiques, de compétences économiques, de compétences financières, de compétences techniques, j'en passe et des meilleurs. C'est toujours des métiers qui ont été au carrefour de beaucoup de compétences. Donc, on travaille avec des gens qui ont des têtes bien faites. Moi, je pense, ça c'est ma conviction, que les gens qui travaillent les données, qui savent travailler les données, moi je les laisse faire et j'ai toujours été convaincue que ça viendrait de spécialistes en dehors de l'immobilier, des gens qui travaillent la donnée et dont le métier c'est de travailler la donnée. Or à l'époque c'était pas la tendance, il y avait justement beaucoup de travail de développement qui était fait par les structures qui en avaient les moyens pour pouvoir essayer de développer des modèles internes. Bon. Ça, c'est une chose. Et comme disait Denis, c'est compliqué quoi, de travailler l'amitié. Ce sont des vrais métiers. Mais les gens avec lesquels on travaille, on ne leur demande pas de travailler la donnée ou de savoir comment la travailler, justement. Chacun son boulot. Il y a des structures, il y a des professionnels qui sont faits pour ça et avec lesquels on travaille pour justement échanger sur nous, notre métier, et sur ce dont on a besoin, et eux nous répondent avec des solutions techniques et de travail de la donnée qui leur sont propres. Moi, je crois plus à ça. Je dis chacun son métier. Les jeunes qu'on embauche, on ne leur demande pas de savoir développer. Si Bertrand, lui, c'est parce que c'est sa passion, mais c'est tout. Mais dans l'immobilier, je voudrais bien savoir qui dans la salle sait le faire. Ça, c'est une affaire de voilà. Mais ce sont des professionnels qui savent le faire, c'est leur métier et ils le font très bien.
Après, il y a un grand penseur qui avait dit la confiance c'est bien, le contrôle c'est mieux. Enfin non, la confiance n'empêche pas, détaille pas le contrôle. Le contrôle. Voilà.
C'est ce que je disais tout à l'heure. Le mot magique en fait là-dedans, c'est le mot responsabilité. Ça, c'est ce qui nous propose, ce qui nous protège. Et le deuxième mot, c'est le mot contrôle, parce qu'il n'y a pas de responsabilité sans contrôle, évidemment. Ce sera pas le même prix. Ce sera pas le même prix de prestation.
Et en plus, ce sera pas le même prix. Et on a tout intérêt à nous diriger vers cette situation. Alors pour le hackage, l'informaticien,
développeur, j'aime mieux. Il n'y a pas de problème.
Il y a deux choses. Déjà, pour l'aider dans la définition de sa valeur, l'intelligence artificielle, elle aide à apporter les données, par exemple, liées au transport en commun, liées aux les données économiques environnementales. D'ailleurs, dans le modèle de Price Hubble, ça y est, ça, dont les promoteurs se servent pour faire leurs études de marché. Donc ça, c'est le premier intérêt. Et ensuite... En effet, ça, ce sont des modèles de prévision qui n'existent pas encore à ma connaissance. Enfin, je pense qu'on a encore un tout petit peu de temps parce que, si je ne me trompe pas, les prévisionnistes en économie ne sont pas encore... Bon, c'est pas encore ça. Mais c'est sûr que ça aussi, ça pourra aider à conduire des stratégies, etc. Mais ça va du taux de la natalité. Le nombre de données en fait, dont on a besoin dans l'absolu est énorme. Et il y a des choses en fait, qu'aujourd'hui on n'étudie pas parce qu'on n'en a pas les moyens. Demain, on en aura les moyens.
Donc encore faut-il que certaines données soient fiables. Parce que vous parliez de contrôle.
Ah, bien sûr. Alors le hacking.
Alors, le hacking. C'est une très bonne question parce que oui, on peut complètement intervenir si on arrive à, je vais le faire autrement, si on arrive à intervenir sur la donnée source, on va intervenir sur le résultat. D'où l'importance cruciale de comment on source et de l'open data, de ne pas dire moi mon modèle il est fait avec mes propres données et faites-moi confiance. Ça, dès qu'on va vous dire ça sur un modèle d'intelligence artificielle quelconque, va falloir faire très attention parce que comment vous pouvez me prouver que la donnée elle est juste, que vous ne l'avez pas vous-même biaisé pour augmenter les prix à côté de chez vous, j'en sais rien, enfin, genre, on peut imaginer des trucs, on peut aller loin. Si la donnée source, elle est issue des gouvernements et qu'on fait confiance au gouvernement évidemment, là a priori on peut apporter du crédit au modèle qui va être derrière. Après moi il y a un truc qui m'interroge depuis tout à l'heure, je ne suis pas du tout expert de l'expertise, très loin de là, et en fait j'ai l'impression qu'il n'existe pas le prix, c'est pas comme le résultat d'une équation mathématique ou le résultat d'un jeu vidéo qui nous dit si on a gagné ou on a perdu. Le prix d'un actif ou d'un bien quelconque à un moment donné, il n'existe que dans la tête des humains, j'ai l'impression, d'un acheteur qui est d'accord pour vendre et d'un acheteur qui est d'accord pour un prix et un vendeur qui est d'accord avec le même prix. Mais ce prix-là, il n'existe pas dans l'absolu, mathématiquement.
Bah, c'est une évaluation qui est faite en fonction d'un certain nombre de paramètres.
Oui, mais pour entraîner une intelligence artificielle, en général, on a besoin du résultat final pour lui dire là, c'est ça le bon prix. Donc ça veut dire qu'il faut lui dire à un moment donné, sur tout un tas de critères, le bon prix, c'était ça. Est-ce qu'on est capable de dire aujourd'hui que l'entièreté de la base des VF, les prix sont les bons?
Ce sont des prix de vente.
Oui, mais est-ce que c'est le bon?
Non, mais y a, après, en effet, il y a la transaction. Après, il y a...
Ah, ça, c'est un problème pour une IA.
Mais par exemple, si moi demain je vends mon appartement à ma fille, je ne vais pas le vendre au même prix que si je le vends à une tierce personne. Je vais le faire dans certaines limites pour justement ne pas me faire attraper par la patrouille. Mais donc, ce qui veut dire que dans la DVF, on a des ventes à des prix de complaisance, on a des ventes avec des effets d'opportunité, on a plein de choses. J'irai même plus loin, dans certaines bases de données, pour ne pas la citer, une base de données qui est celle de la SAFER, ce n'est pas de leur faute. Hein. Quand on prend, il y a des fausses notifications. Voilà. Il y a des notifications qui sont biaisées, des notifications qui n'ont été faites uniquement pour que dans les évaluations, on arrive à des surévaluations. Ah mais... Voilà, non mais... Non mais c'est ça, en fait. Donc c'est-à-dire que comme parfois la data n'est pas disponible sur Perval, mais elle est sur Vigifoncier, on a dans Vigifoncier des montants de notifications qui n'ont été faits que dans le but d'influencer le marché. Et ça m'a été annoncé par 3 notaires qui étaient coutumés sur certains types d'actifs de faire ça justement pour... Alors, en l'occurrence, c'était pas forcément que le sud de la France. Voilà.
Bah, c'est du hacking.
Et donc, dans DVF, ce sont les transactions. Donc, on n'a pas les DIA, des choses qui sont...
Oui, non, mais c'est acté. Sauf qu'on sait tous qu'il y a, pour un même bien, il peut y avoir plusieurs prix.
Oui. Va être compensé naturellement par le fait qu'en révisant les
Mais après, nous, on a un vrai problème dans la DVF. Surface réelle bâtie. Qui parmi vous sait ce qu'il y a dans la surface réelle bâtie? Je pose pas la question, je pose la question à vous. Vous utilisez tous la DVF tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a dans la surface réelle bâtie? Et qu'est-ce qui peut expliquer que certaines fois, même très souvent, la surface qui reste dans la DVF ne correspond pas à la surface réelle bâtie?
Et ne correspond pas forcément entre biens et DVF, par exemple, on n'a pas forcément les mêmes données.
Exactement. Donc ça veut dire que, pour reprendre ce que vous disiez, la problématique, c'est que la qualité initiale de la data de base est un enjeu essentiel. Et c'est là où notre profession a un rôle à jouer. Dès qu'on expertise un bien, on le check sur toutes ses facettes. Si on reprend la charte de l'expertise en évaluation immobilière, qu'on prend le raisonnement d'un informaticien ou d'un développeur, c'est grosso modo 300 variables. Donc, ce qui veut dire que quand on évalue un bien, on va le checker sur grosso modo 300 variables. C'est énorme. Et ces variables, on les utilise une fois pour prendre un rapport. Donc, ça aussi, c'est de la donnée. Et il faut que nous, en tant qu'évaluateurs, on sache mettre à profit la donnée qu'on crée. À commencer par avoir des trames de rapport qui soient structurées. À commencer par avoir des systèmes de base de données en interne. La fiche papier, aujourd'hui, elle a vécu. Sur un rapport d'expertise lambda, on a le bien à valoriser, on va avoir quoi, 60 termes de comparaison sur lesquels on va bosser, minimum. Donc c'est des termes de comparaison qu'on va à chaque fois enrichir, améliorer, éventuellement corriger, ce qui va poser aussi un problème. Est-ce que je vais corriger un bien de la même manière que mon voisin? Donc en fait, c'est des questions dont il faut qu'on saisisse, et il faut bien garder en tête que la DVF, à la base, est faite pour faire de la stat. C'est l'université de Rennes qui est très en avance sur ce point-là, qui vous fait des super stats sur la DVF. Allez regarder, hein, vous allez sur GitHub, vous prenez tous les dépôts de l'université de Rennes en géomatique, et vous regardez comment ils vont scripter la DVF, comment ils vont l'interpréter. Ils ont un truc qui d'emblée est très simple, les multimutations, on les dégage. Donc vous avez 1 million de lignes, vous passez à 300 millions de lignes. Ils font de la stat. Pour faire de la stat, ça marche bien. Mais nous, on fait de l'évaluation sur des tout petits panels. Donc, ce qui veut dire que pour les 60 termes de comparaison qu'on va retenir, il va falloir aller gratter au fond pour voir si c'est correct. Donc, l'IA pour de la stat, pour faire des approches globales généralistes, c'est super. Mais pour faire de l'expertise en évaluation immobilière, bah, ça demandera toujours un peu de temps. Donc, l'IA, ce n'est qu'un outil parmi tous les autres.
À moins que vous ayez une data commune.
Alors,
on va dire Amen.
Et puis, j'ai envie de dire aussi, pour l'instant, effectivement, la clé, c'est d'avoir une data certaine. Mais on revient de tellement loin. Parce que là, sur le logement, enfin, sur DVF, bien ou Perval, on est à peu près bien. Mais je ne vous parle pas des loyers commerciaux. Je ne vous parle pas des publications aussi. Parce que ça, c'est du vécu. Pour avoir travaillé sur de l'hôtellerie très haut de gamme, où j'étais obligée, parce que c'était pour un fonds international, j'étais obligée de demander les actes pour prouver que les éléments de référence dont je me servais étaient certains et connaître les vraies modalités de session et voir aussi s'il y avait eu des travaux, des machins. Voilà. Donc je me suis amusée à demander tous les actes. Eh bien, j'ai recoupé entre ce que je trouvais sur Internet, l'information qui était diffusée de tel hôtel a été vendu à telle personne, à telle société, à tel moment, à tel prix. Tout était faux, mais quand je dis faux, c'était du simple au double, c'était pas du tout la bonne date, c'était pas du tout là, rien n'était vrai. Donc voilà. Mais néanmoins, même sur de la donnée imparfaite, on prend quand même, puisque de toute façon, pour l'instant, on travaille avec ça. Donc j'ai envie de dire, c'est vrai que pour le moment, ils sont parfaits, hein, ils essayent de travailler avec de la donnée, la meilleure donnée possible et de la donnée open data. Mais je pense que dans les modèles de demain, on est preneur aussi de travailler avec de la donnée qui sera peut-être pas parfaite, mais qui nous ira bien.
Là-dessus, on travaille déjà, nous, Priceable, avec pas mal de réseaux d'experts où on intègre, en fin de compte, la donnée des experts. Donc, on vient entraîner justement nos modèles avec cette donnée d'experts et ça va venir enrichir aussi notre modèle. Je pense notamment à E7, Foncia, anciennement Foncia Valorisation, qui injectent toutes leurs données de transactions directement dans notre solution pour obtenir, en fin de compte, des métriques plus précises sur des biens à particularité, mais qu'eux auraient déjà eu en référence et qu'ils n'arrivent pas à trouver sur le marché du commun. Donc ça, on le fait, on équipe bon nombre de réseaux d'experts de leurs propres données en l'injectant dans le modèle de Priceable.
Et du coup, est-ce que vous allez injecter dans le modèle les éventuelles évaluations qui auraient été faites par le modèle ? Est-ce qu'il va s'entendre ? Parce que ça, c'est un risque aussi.
Ça, c'est un risque, mais pas pour le moment. C'est pas prévu. On veut rester fiable et garder un petit peu notre caractère de neutralité, un petit peu de juge de paix, dans le sens où nous, on observe le marché de l'immobilier au travers un scope qui est assez mince. Hein. C'est ce qui est diffusé en ligne et ce que le public veut bien, auquel le public veut bien nous donner accès. Mais on veut pas se transformer en black box où au final, c'est on ne comprend pas trop ce qu'il en sort et on ne saurait même pas trop l'expliquer. Donc, on va être totalement transparent là-dessus, on le restera.
La donnée, il y a quand même un caractère un peu politique de qu'est-ce qui est comptabilisé, pourquoi. Est-ce que le risque de disparition de la donnée, je pense à l'exemple de la Chine, où cet été, par exemple, le chômage des jeunes, la statistique de l'embêtante, plus est-ce. Est-ce que ce risque de disparition de données, par exemple,
alors aujourd'hui, pas dans le modèle, on fait appel nous à la donnée qui est diffusée directement, ce qui rentre après dans le domaine politique. Nous, on couvre 10 pays aujourd'hui, donc avant que ça disparaisse des 10 pays et que ça ait un impact global sur notre modèle, on a déjà un acquis de connaissances et un savoir, donc nos modèles ont déjà été entraînés sur un certain passif. Après, si la donnée n'est plus du tout accessible, on ne va pas faire de magie, nous, on ne capte que la donnée du coup qui est accessible. On n'est pas magicien sur ce côté-là.
Non, par contre, il faut que les professionnels de l'évaluation stockent la donnée. C'est-à-dire que là, dans quelques jours, va sortir le premier semestre 2023 de la DVF. Téléchargez-le, stockez-le.
Il est déjà disponible. Il est disponible là depuis, je crois que c'est hier. Il a été livré à 11h20 et on l'a intégré à 15h30.
Voilà. Donc en fait, téléchargez-le. Voilà, et stockez-le. Et faites-le sur toutes les années sur lesquelles vous pouvez remonter, c'est 5 ou 4 ans, 5 ans. Voilà, donc stockez la donnée, c'est ultra important. Investissez dans des serveurs ou des petits serveurs qu'on appelle des NAS, mais pensez à stocker vos données dans un endroit donc, que vous pouvez retrouver avec une redondance de la donnée, mais c'est important en effet parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain.
Pour des experts sur du long terme. Les données de notaire, en 2017,
94. Pour Perval. 94 pour Perval. Après, il base bien, je ne sais pas. Mais 94, c'est déjà pas mal.
Mais, tout de même, on va, j'espère, pas stocker de la donnée parce que on craint que la donnée publique disparaisse. Voilà, soyons un peu éco-responsables, parce que tout ça, le stocker des données et autres, c'est bien, mais ça a un coût pour la collectivité aussi en termes environnementaux.
Plus d'autres questions ?
Ben là, tu viens de mettre toute la vertu d'un ordre, c'est-à-dire que quand il y a un ordre, on peut avoir une structure commune qui permet d'avancer, et pour le coup, géofoncier, chapeau. Le jour où les experts développeront le géofoncier des experts, là, ça sera parfait. On aura même de la data qualifiée, y compris sur le co-commerciaux. Ah, tu sais, j'ai un problème, j'arrive plus à compter. Donc Ah bah oui, tout à fait. Mais c'est Jean qui me calcule les honoraires, c'est plus simple.
C'est parfait.
Moi, j'ai une question. DVR s'est mis à jour. Quelle est la fraîcheur de la donnée ?
Alors, la fraîcheur de données de DFF s'est mis à jour en fait de façon biannuelle, c'est en avril et en octobre. Là, c'était mis à jour hier. Et en fait, cette donnée, elle a déjà, quand elle est livrée, un certain retard, puisque là, sur DVF qu'on a intégré, on a les dernières transactions qui ont été passées en juin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand le notaire, en fin de compte, rentre un compromis, il enrichit directement sa fiche bien sous son LRA, son logiciel de rédaction d'actes, et ça lui donne une vue de marché à horizon 3 mois. Donc en fait, le décalage DVF, il n'est pas vraiment de 6 mois, il est plutôt de 8, 10, voire 12 mois, en fin de compte.
Donc bien, bien insuffisant pour
le marché
anticiper
aujourd'hui.
Quoi que ce soit.
Exactement. On n'est pas dans la perspective, on est vraiment factuel sur l'instant T, et ça, c'est les annonces qui vont nous donner beaucoup d'informations de marché, donc on va capter de façon massive.
Alors pourquoi tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais historiquement, dans les mises à jour de la DVF, on avait l'année en cours, et parfois on avait un peu de rattrapage de ce qu'il y avait avant dans les mises à jour qui étaient publiées. Donc là, par exemple, on n'aura pas que du 2023, on risque d'avoir du reliquat 2022 qui n'avait pas été compilé à l'époque. Donc parfois, on dit, ouais, c'est super, on monte jusqu'en juin, et on se rend compte qu'en fait, la data, elle est vraiment consolidée, novembre, décembre, janvier, février, mars, un peu avril, mais même juin, juillet, enfin juin, pour le coup, il faudra attendre avril de l'année prochaine. Donc il peut y avoir un delta qui est très conséquent. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir qu'une seule base de données. On ne peut pas uniquement se focaliser sur DVF. C'est impossible, sauf à faire des évaluations sur les trois dernières années. Mais sinon, au jour J, on est obligé d'avoir plusieurs data.
Donc c'est tout le prérequis pour que l'intelligence artificielle offre ce champ des possibles pour la profession. C'est cette multiplicité des bases de données et pourquoi pas à terme de créer une base de données commune à la profession.
Ce serait parfait.
Plus d'autres questions ? Bon, bah je... Merci à tous d'avoir abondé copieusement et de manière enrichie sur cette problématique-là, sur ces éléments positifs pour la profession d'expert immobilier, ces implications pour revisiter une profession, donner un petit peu les éléments explicatifs pour faire que demain la donnée puisse alimenter l'intelligence artificielle et nourrir un peu plus l'estimation immobilière. Merci à tous.
Merci.
Merci beaucoup.